Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, le droit est-il en train d'étouffer la démocratie? 6 jours, 5 heures et une grosse poignée de minutes. Tic-tac, tic-tac, c'est le temps qu'il reste au Premier ministre pour répondre à notre demande préalable. Voilà le message qui s'affiche en une du site L'Affaire du siècle, un collectif d'ONG qui ont décidé, je cite, « au nom de l'intérêt général, d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques ». À ce jour, plus de 2 millions de personnes soutiennent en ligne cette action. Alors l'avenir dira si cette démarche a été efficace. Elle illustre en tout cas un phénomène de plus en plus courant, le fait de recourir au droit pour faire plier le pouvoir politique, soit en l'incitant, comme dans ce cas précis, à agir, soit en l'obligeant à renoncer à un projet. Le plus souvent, c'est au nom des droits fondamentaux et des libertés individuelles que ces démarches sont engagées, démarches auprès d'institutions qui, en quelques années, ont pris une ampleur inédite, qu'il s'agisse de la Cour européenne des droits de l'homme en Europe ou, par exemple, du Conseil constitutionnel en France. Problème, ces institutions pensées pour défendre la démocratie ne procèdent pas de celle-ci et ne sont pas soumises au contrôle démocratique. Pire, pour certains, elles se substitueraient au pouvoir politique pour imposer leur vue, notamment sur des sujets de société, au risque de privilégier les intérêts particuliers plutôt que l'intérêt général. Alors le droit est-il en train d'étouffer la démocratie ? Question posée ce soir à deux invités. François Saint-Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, vous travaillez sur les questions de justice pénale. Vous venez de publier chez Odile Jacob « Le droit contre les démons de la politique », ouvrage dans lequel vous vous expliquez qu'il y a une nécessité de consolider le droit, car celui-ci est le garant des libertés individuelles face à l'arbitraire du pouvoir politique. Et donc le droit est protecteur de la démocratie. C'est à résumer, évidemment, on a 40 minutes pour détailler et pour aller vers davantage de complexité. Pour discuter avec vous ce soir et débattre, Bertrand Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'école de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président de l'Association internationale de droit constitutionnel, conseiller d'État en service extraordinaire. Vous avez publié, vous c'était en 2017 aux éditions LGDJ, Le droit contre la démocratie, et je vais me risquer là aussi à résumer.
Avec un point d'interrogation.
Avec un point d'interrogation. Même si vous, quand on lit votre ouvrage, on voit qu'on pourrait quand même assez aisément l'enlever. Mais on verra bien ce qu'il en ressort dans cette discussion. Je vais essayer là aussi de résumer en deux lignes votre propos. Vous faites le constat qu'en tout cas que la limitation du pouvoir politique aujourd'hui par le droit et l'affirmation des libertés individuelles crée un déséquilibre qui met en cause le principe démocratique. Alors on va aller évidemment dans cette discussion voir ce que le droit, dans la façon dont il s'exerce aujourd'hui, fait à la démocratie. Mais je voudrais d'abord qu'on commence la discussion en nous interrogeant sur les conditions de production des règles de droit. Est-ce que vous considérez, l'un et l'autre, que ces règles sont produites aujourd'hui de manière démocratique, François Saint-Pierre ?
La réponse est oui. Mais bien sûr, c'est un système en devenir. Bien, nous sommes les héritiers d'un système judiciaire napoléonien. Et ça n'était pas une démocratie. L'histoire a évolué et depuis peu d'années, le droit a pris un essor phénoménal. C'est dû à la Cour européenne des droits de l'homme, comme vous l'avez dit, au Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation, au Conseil d'État. Nous avons une convergence de ces juridictions pour créer un ordre juridique qui, il est tout à fait exact, s'affranchit du pouvoir politique.
Et mais alors, vous venez de répondre en citant quatre institutions qui ne procèdent pas, justement, de l'exercice de la démocratie. En tout cas, ce sont des institutions qui ne sont pas élues.
Il faut s'entendre, justement, sur ce terme, puisque vous assimilez la démocratie à l'élection. Mais nous sommes dans un système de démocratie représentative et les juges, quant à eux, sont nommés, bien entendu. Et je crois ici que le système judiciaire doit se développer, se démocratiser encore. C'est-à-dire que la nomination des juges et des procureurs doit être améliorée. La motivation des décisions doit résulter de procédures équitables qui doivent être améliorées. Et puis la responsabilité de ces magistrats doit bien entendu également être développée. Et ça n'est pas encore le cas.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Bertrand Mathieu ?
Moi, je crois que, en fait, il faut d'abord s'entendre sur ce que signifie le mot démocratie. Parce que on dit c'est démocratique, c'est pas démocratique. Moi, quand je dis à mes étudiants, l'Union européenne n'est pas une démocratie, immédiatement, je leur dis, vous entendez, il est contre l'Union européenne. Et je leur dis pas du tout, je suis favorable à l'Union européenne, mais je pense que c'est pas une démocratie. En fait, il y a deux conceptions de la démocratie. Il y a une conception qui renvoie à ce qu'on appelle une bonne gouvernance. Et ce que François Saint-Pierre a dit relève de la bonne gouvernance, beaucoup plus, me semble-t-il, que de la démocratie. Et la démocratie, c'est quoi ? Dans ce cas-là, c'est un ensemble où il y a la démocratie au sens strict, le respect des droits fondamentaux, le contrôle du juge, l'état de droit, etc. Ça, finalement, c'est le système que l'on aspire à avoir. Et puis, il y a une autre conception qui est de dire qu'en fait, on vit dans un système mixte. Et c'est pour ça qu'il fonctionnait bien. Un système où il y a la démocratie, c'est-à-dire c'est un mécanisme de légitimation du pouvoir dans le peuple. Et puis, il y a le libéralisme dont relèvent les droits fondamentaux, le juge, qui est un moyen de gouverner, qui est un moyen d'avoir ce que Montesquieu appelait un gouvernement modéré. Et en fait, je crois que si aujourd'hui, on ne fait pas cette distinction entre la démocratie au sens strict du terme et le libéralisme, on ne peut pas analyser le conflit qui est en train de se produire entre les deux. Et regardez le fait que dans certains pays, et je ne porte pas de jugement de valeur, on considère qu'il puisse y avoir une démocratie illibérale, par exemple de la Hongrie, c'est la théorie de M. Orban, montre bien, en tout cas, qu'il y a un conflit potentiel entre ces deux termes. Alors, je répondrai ensuite à votre question sur est-ce que le droit est construit de manière démocratique ou non, mais je crois qu'il y avait ce préalable-là.
Alors, on va justement faire réagir François Saint-Pierre sur ce préalable, et ensuite je reviendrai vers vous, Bertrand Mathieu.
Alors, je ne suis pas d'accord avec l'expression de conflit entre le pouvoir politique, et la justice. Je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à un phénomène nouveau, qui est celui d'une dialectique, d'une conversation entre le politique et le juridique. Comment est-ce que ça s'est opéré ? Eh bien, les juges ont désormais le pouvoir de déclarer qu'une loi qui leur semble contraire aux valeurs fondamentales, aux effets délétères, doit être écartée, suspendue. Ce pouvoir appartient à la Cour européenne des droits de l'homme, au Conseil constitutionnel, et même les juges judiciaires ou administratifs l'ont également. Et ils l'ont pris d'eux-mêmes. Pour ce qui est de la Cour de cassation, c'est extraordinaire de voir que le 15 avril 2011, l'Assemblée plénière, c'est-à-dire la plus haute formation de cette juridiction, a décidé dans 4 décisions le même jour que désormais les juges devraient appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de préférence aux lois nationales, s'il y avait un conflit de valeurs.
Oui, voilà. Mais vous parlez de conversation, oui. François Saint-Pierre. Dans votre livre, vous faites donc ce constat que ce sont des institutions qui se sont progressivement émancipées du pouvoir politique au point d'imposer leur vue au Parlement. C'est une conversation qui est quand même assez musclée.
Mais bien sûr, prenons le cas du Conseil constitutionnel, c'est tout à fait remarquable. Pendant les premières années, il a rendu une dizaine de décisions. Et puis en 1974, on a donné la possibilité aux parlementaires de le saisir. Il en a rendu à peu près 12 par an. En 2010, ce que l'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité a été instituée. On remercie le président Sarkozy pour cela, puisqu'on le lui doit. C'est un mécanisme qui fait que n'importe quel plaideur devant les tribunaux peut demander que la loi qui lui est appliquée peut demander qu'elle soit jugée non constitutionnelle. Et c'est le Conseil constitutionnel qui va se décider. Savez-vous que depuis 8 ans que cette procédure existe, je dis bien, il y avait 12 décisions par an antérieurement, en 8 ans, il en a rendu près de 800, et il a décidé que près de 200 lois étaient inconstitutionnelles. Je pose la question, qui a le dernier mot ? C'est le Conseil constitutionnel.
Oui. Donc des institutions qui ne procèdent peut-être pas d'une délibération démocratique, Bertrand Mathieu, mais qui, en leur sein, comme on le voit avec le constitutionnel, font vivre cette démocratie en permettant justement cette saisie.
Via il la faire vivre, c'est une chose. Le problème, c'est que François Saint-Pierre nous démontre, et avec beaucoup de talent et de réalisme, que le pouvoir appartient au juge.
Oui.
Bon, et le fait que le pouvoir appartient aux juges, doit quand même conduire à s'interroger sur la légitimité de cette prise de pouvoir. Je noterai simplement que la Révolution française s'est faite contre les juges, parce que les parlements d'ancien régime voulaient prendre le pouvoir qu'avait le roi. C'est un problème qui n'est pas nouveau, on est bien d'accord. Mais je crois qu'on ne peut pas ne pas s'interroger sur le fait qu'en effet, ces institutions ont pris le pouvoir. Et ça renvoie à la question que vous posiez, la question fondamentale, est-ce que la formation du droit est démocratique ? Alors, bien entendu, elle est en partie démocratique. Le Parlement vote la loi. Mais lorsque l'on voit qu'à peu près 80% des normes produites par la législation française, c'est un chiffre approximatif qu'on cite, je n'ai pas vérifié, sont d'origine européenne, de l'Union européenne.
Chiffre qui est contesté, hein. Il y a des études, importe, on n'a jamais si on voilà, à 60, réussi à évaluer le, voilà, le, la proportion exacte.
Mais je le reconnais moi-même, mais même si on était à 50, le problème resterait le même. Si on constate qu'en effet, la Cour européenne des droits de l'homme impose des évolutions sociales aux parlements nationaux, si on considère, et là on sort un peu du droit, mais c'est la même chose, si on considère que les agences de notation permettent aux États ou non d'emprunter, etc., et on s'aperçoit que le droit n'est plus fabriqué par des institutions démocratiques. Et c'est pas vraiment nouveau. Philippe Séguin disait, là où il y a de la démocratie, il y a de moins en moins de fabrication de normes, et là où les normes se fabriquent, il y a de moins en moins de démocratie. Mmh. Et ça, je crois que c'est un véritable problème. Je suis d'accord avec François Saint-Pierre pour dire, comme il l'expose brillamment, que le droit se forme dans les juridictions, mais pour moi, c'est un véritable problème par rapport au pouvoir politique.
Alors, il y a quand même un accord entre vous deux, c'est sur le constat. Les juges ont pris, si ce n'est la totalité du pouvoir politique, bien entendu que non. Enfin, en tout cas, ils ont gagné du pouvoir, sauf que vous, Bertrand Mathieu, ça vous pose problème. Vous, François Saint-Pierre, quand on vous lit, vous vous en réjouissez.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un phénomène qui est en expansion, mais il n'est pas dit qu'il dure longtemps. Alors, je m'en réjouis pourquoi ? Parce que les valeurs de notre République ont été développées par ces jurisprudences de ces juridiction. Je vais prendre un exemple, la liberté d'expression, le droit à l'information, la liberté de la presse, c'est considérablement développé ces 15 dernières années. Alors, Bertrand Mathieu nous dit, mais c'est une atteinte à la vie privée. Ça dépend, c'est une question d'arbitrage. Si une personne s'inscrit dans le débat public, développe comme nous aujourd'hui un thème d'intérêt public, n'est-ce pas ? Où est la vie privée ? Ça n'est pas la question. Nous avons ici le droit de tout dire. Je prends un autre exemple, les rapports des citoyens avec la police, d'accord ? Qui a imposé la présence des avocats dans les commissariats de police, les gendarmeries ? Ce sont les juridictions, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation a embrayé.
Mais est-ce que ça n'est pas le travail du Parlement que ce travail-là,
mais le Parlement ne l'a pas fait. Je prends un dernier exemple.
Peut-être que s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il avait bonnes raisons de ne pas le faire.
Pas du tout. C'est parce qu'il dysfonctionne. Le blocage droite-gauche a fait qu'il n'a pas pu se libérer d'une grille politique extrêmement réduite. Prenons l'exemple très intéressant du délit de solidarité. Vous savez que des militants aidaient des migrants à passer la frontière des Alpes, par exemple. Ils étaient poursuivis en justice et ils ont dit, mais cette loi n'est pas constitutionnelle parce qu'elle est contraire au principe de fraternité. C'est la devise de la République. Qui a jugé qu'effectivement, ça ne pouvait pas fonctionner comme le Conseil constitutionnel ? Écoutez, est-ce qu'un seul parti politique, est-ce qu'un seul responsable politique aurait eu l'imagination et le cran de proposer cette solution ? Le Conseil constitutionnel.
On pose la question à Bertrand Mathieu. Est-ce qu'un seul responsable politique aurait eu le cran de le faire ?
Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de la fraternité ne pose pas plus de problèmes qu'elle apporte de solutions, mais c'est un autre débat. Moi, je crois que le problème dans cette affaire, c'est que si on considère en effet que tout se joue entre les juges et les droits individuels, l'analyse de François Saint-Pierre est en effet la bonne. Mais je crois qu'en fait, si on repart, le droit, il se construit comment ? Le droit, il se construit avec un peuple. La démocratie, jusqu'à présent, n'a fonctionné que dans des États et avec des valeurs. Mais les valeurs ne sont pas simplement les droits individuels. Le problème, si on considère que les seules valeurs sont les droits de l'individu, oui. Mais dans ce cas-là, le problème de la démocratie se pose. Le problème de la démocratie se pose pourquoi ? Parce que la fonction essentielle, mais ça, du pouvoir politique, c'est quoi ? C'est de déterminer l'intérêt général. S'il n'y a plus que des droits individuels, il n'y a plus d'intérêt général. Et ça, c'est aussi un des problèmes.
Mais pardonnez-moi, juste vous interrompre un instant. Bertrand Mathieu, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un intérêt général qui s'imposerait, ou en tout cas qui vaudrait, pour, de manière, comment dire, à l'échelle supranationale, c'est-à-dire à l'échelle européenne ? Est-ce que ça veut dire que pour vous, ça n'est qu'à l'échelle de l'État que ça peut s'appliquer, et donc que le droit ne peut procéder que de l'État ?
Bien sûr que non. Si on regarde, je crois qu'il n'y a que dans l'État que le droit peut se forger de manière démocratique. Pourquoi ? Ben parce qu'on a un peuple, des procédures politiques, des élections, etc. Mais je crois en effet, et ça c'est un autre problème, qu'il y a une identité commune européenne et des identités nationales, et qu'il y a une sorte de dialectique. Mais pour revenir à ce problème de l'individualisme, je crois qu'on est que l'un des éléments, et on passe un petit peu d'un sujet à l'autre, mais je crois que l'un des éléments essentiels de destruction de la démocratie même, c'est le fait qu'on a, le droit se résume à un hyper-individualisme. On reconnaît, il n'y a plus, en fait, on est une société dans laquelle l'individu se définit librement dans son sexe, dans son identité, dans sa fin de vie, etc. Et on n'arrive plus à forger de valeurs communes, de destin commun. Un peuple, pour qu'une démocratie existe, il faut qu'il y ait un peuple inscrit à la fois dans une histoire et dans un avenir. Et ça, c'est en train de se dissoudre. Et je crois que là aussi, c'est un phénomène qui fait que le pouvoir glisse au juge. Pourquoi ? Parce que le rôle du juge, c'est finalement de régler des conflits interindividuels. Le problème, c'est que ce passage du pouvoir du législateur chargé d'incarner une volonté et un intérêt général au juge montre bien qu'on a une dissolution de la société dans des intérêts individuels arbitrés par le juge. Et ça, je crois que c'est une évolution qu'il faut aussi relever.
François Saint-Pierre,
je pense que les juges tiennent en ligne de compte l'intérêt général et pas seulement des intérêts égoïstes, sachant que l'addition des intérêts particuliers n'équivaut pas à l'intérêt général, je suis bien d'accord. Je vais prendre un exemple très concret. Très prochainement, la loi anti-casseurs va être adoptée par le Parlement. Cette loi prévoit que le préfet pourra interdire à certaines personnes bien identifiées de participer à des manifestations parce qu'elles perturbent l'ordre public. Et le Conseil constitutionnel, c'est absolument inéluctable, sera saisi de la question, soit par les parlementaires d'opposition, soit par des avocats qui vont utiliser cette question de constitutionnalité. Le problème est le suivant. Est-ce que le Conseil constitutionnel dira que cette loi est constitutionnelle ou pas ? Et moi, je dis que tout va se juger, non pas sur l'intérêt individuel des quelques personnes qui seront interdites, mais sur l'intérêt général. Et vous savez pourquoi ? Il faut être très, très concret. Comment est-ce que les services de police vont pouvoir contrôler que les personnes interdites de manifestation ne viennent pas manifester? Eh bien, par un contrôle d'identité très large aux abords de la manifestation. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viendront manifester verront leur identité contrôlée. Vous savez que maintenant, ça se fait par scan, et par conséquent, toutes les personnes venant manifester seront fichées. Et donc, je soutiens que cette loi est inconstitutionnelle, non pas parce qu'on évince les Black Blocs ou quelques casseurs, mais parce qu'elle fichera toutes les manifestants à toutes les manifestations. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir parfaitement républicain. Qu'en sera-t-il demain ? Donc le Conseil constitutionnel va statuer au titre de l'intérêt général.
Alors j'allais justement venir sur cette question, Bertrand Mathieu. C'est vrai que ce que vous dites et ce qu'on entend ce soir, ça peut valoir dans un État qui respecte absolument les règles de droit et les libertés qui font partie aussi des conditions de la démocratie. Mais lorsqu'un État, lorsqu'un pouvoir devient un État autoritaire, comme on peut le voir par exemple dans certains pays européens, on évoquait tout à l'heure la Hongrie, c'est le cas, les atteintes à l'état de droit ont fait qu'il y a eu le déclenchement de ce fameux article 7 au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité, et est-ce qu'on ne peut pas se réjouir que justement des structures, des institutions juridiques soient là pour rappeler les règles de droit et protéger les citoyens ?
Écoutez, sûrement, mais mon analyse ne porte pas sur le point de savoir s'il faut se réjouir ou se lamenter. Mon analyse est simplement de constater le phénomène suivant, que vous illustrez d'ailleurs assez justement. C'est que jusqu'à présent, on a vécu un temps de l'histoire un peu particulier et heureux, où il y avait un équilibre entre le principe démocratique et le principe libéral. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une rupture. Il y a une rupture des deux côtés, puisque dans des pays comme le nôtre, le principe démocratique, on n'en est pas le meilleur exemple, mais le principe démocratique est partiellement étouffé. Et dans des pays comme la Hongrie, le principe démocratique tend à étouffer le principe libéral. Je prendrai deux exemples. Il faut quand même regarder.
Alors, en Hongrie, le principe démocratique tend
étouffe à... le principe libéral.
Et alors expliquez-nous ce que vous voulez dire là, parce que je pense que ça va surprendre beaucoup de gens.
C'est que vous avez un gouvernement qui est élu avec une majorité des deux tiers, qui en fait s'assoit sur cette légitimité pour essayer de contrôler les contre-pouvoirs dont la justice. C'est un gouvernement éminemment démocratique, c'est pas forcément un gouvernement qui respecte toutes les libertés.
Donc on peut être autoritaire et démocratique.
Bien sûr. Et l'inverse. Ça, je crois que non, mais il faut raisonner juridiquement. On a trop tendance à mettre derrière les mots des signes plus ou des signes moins. Je ne porte pas de jugement de valeur. Je ne dis pas que si la Hongrie est un régime démocratique, c'est pas un bon régime pour autant. Mais je voudrais revenir à quelque chose. Il faut quand même observer la situation. Est-ce que dans ce monde merveilleux où règne le juge, comment prendre en compte la révolte des peuples? Comment prendre en compte la révolte des peuples en Italie, non pas la Hongrie ou la prendre la révolte des peuples dans de nombreux pays européens, prendre les révoltes qui ont en France. Moi j'ai trouvé que le mouvement des Gilets jaunes, que je ne pouvais pas, bien entendu pas prévoir en 2017, est une illustration absolument extraordinaire de cette manière, de cette crise de la démocratie. Cette crise de la démocratie, elle tient pour moi à un élément tout à fait central. C'est que le peuple n'a plus de prise sur les décisions. Elles sont prises ailleurs. Et à un moment, cette coupure entre le vote et la décision politique fait que le peuple se révolte.
Alors on est en train de se poser la question ce soir de savoir si le droit est en train d'étouffer la démocratie. On le fait en compagnie de Bertrand Mathieu, professeur à l'école de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'avocat François Saint-Pierre. Bertrand Mathieu, je rappelle le titre de votre livre, Le droit contre la démocratie avec un point d'interrogation aux éditions LGDJ, et François Saint-Pierre, Le droit contre les démons de la politique chez Odile Jacob. Je vous laisse réagir à ce que vient de dire Bertrand Mathieu.
Il est certain que le pouvoir grandissant des juges va appeler un mouvement contraire. Et je crois qu'en France, l'un des thèmes importants des prochaines élections, je ne parle pas des élections européennes et des prochaines présidentielles et législatives, sera bien celui-là. Dans le programme du Rassemblement national, il figure en bonne place le retrait de la France de la Cour européenne des droits de l'homme. Marine Le Pen l'a dit à plusieurs reprises, et M. Bardella, qui conduit la liste pour les européennes, l'a dit récemment en ouverture de la campagne.
En quoi est-ce que c'est problématique du point de vue de la démocratie, si la France se retire de la CEDH?
Alors, c'est important, ça risque de se produire, parce que je voudrais quand même préciser, avant de répondre à votre question, que ça n'est pas le seul parti qui réclame cela, puisque François Fillon, pendant les élections, la campagne des présidentielles de 2017, a clairement revendiquer cela également. Bien. Donc que ce soit les Républicains ou le Rassemblement National, nous avons les deux principaux partis de droite qui réclament le retrait de la France de la CEDH.
Mais ça ne ferait pas forcément de la France une dictature, le fait de s'en retirer.
Pas du tout. Je dis simplement que, d'abord, je dis, un, ce sont des politiques déterminées et compétentes et qui feront ce qu'ils disent. Bien. Donc justement, anticipons sur ce qui se passera à ce moment-là. Le fait que la France se retire de la CEDH, ça a pour moi déjà une incidence historique. Il faut quand même se souvenir que cette juridiction a été instituée en 1951, juste après la guerre, juste après le procès de Nuremberg, à un moment donné où on a dit qu'il fallait absolument instituer des juridictions supranationales pour éviter les dérives dictatoriales. Je ne dis pas que demain ce sera une dictature, et j'espère bien que ces partis respecteront la République, les formes républicaines. Mais il est évident que des lois seront adoptées contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Et le fait que la France se retire permettra la mise en place de politiques extrêmement autoritaires. Je voudrais juste ajouter un mot qui s'adresse au constitutionnaliste Bertrand Mathieu. C'est que les Républicains ont également un programme judiciaire qui est extrêmement fort sur ce point-là, puisque M. Guillaume Larrivé et M. Éric Ciotti, qui sont deux députés qui pensent les questions de justice et qui les pensent de manière très structurée, ont souhaité présenter un amendement de loi constitutionnelle en juillet dernier qui consistait ni plus ni moins qu'a privé de toute force le Conseil constitutionnel. Il disait, bon, c'est très clair, si une loi est censurée par le Conseil constitutionnel et que le Parlement revote la même loi, c'est terminé. Autrement dit, c'est le Parlement qui reprend la main. Je ne sais pas ce que Bertrand Mathieu pense de cette proposition, mais moi je dis que si, un, la France se retire de la CEDH, deux, on bride comme ça le Conseil constitutionnel, effectivement, nous reviendrons dans un système vertical très classique en France, celui de la primauté du politique sur les juges.
Et ben on va tout de suite savoir ce que Bertrand Mathieu pense de ces deux propositions. C'est vrai que ça semble assez logique, si on suit la vôtre, justement, de logique, c'est-à-dire quitte à critiquer ces institutions et le pouvoir qu'elles ont pris, peut-être faut-il, dans le cas de la CEDH, s'en retirer, et dans le cas du Conseil constitutionnel, lui enlever du pouvoir, Bertrand Mathieu.
Alors, sur ces deux plans, je trouve que vous avez une analyse qu'on peut en effet partager, mais qui est une analyse essentiellement morale et idéologique, avec laquelle je ne suis pas en rupture, mais je voudrais me placer sur des éléments plus concrets. Je ne crois pas personnellement qu'il faille sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, pas du tout. Mais en revanche, je trouve que la Cour européenne des droits de l'homme a pris des positions qui ne sont pas du tout celles pour lesquelles elle a été créée. La Cour européenne des droits de l'homme intervient sur des domaines sur lesquels elle ne s'appuie pas sur le texte de la Convention. Elle va chercher des textes ailleurs. Elle se fait... Moi, je dis souvent...
Vous citez, par exemple, dans votre livre, la question du mariage pour tous.
Oui, la question du mariage pour tous, on peut être pour ou contre, peu importe. Mais le mariage est défini dans la Convention européenne comme celui d'un homme et d'une femme. C'est le seul texte, d'ailleurs, où il y a cette définition, qui n'existe ni dans la Constitution, ni dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais le problème, c'est que si on veut changer, il appartient au signataire du traité d'en changer par la Cour. Parce que sinon, on considère que c'est au juge qui convient d'adapter le droit aux évolutions de la société. Ce contre quoi je me dresse, pour une raison très simple. Je vais vous donner un exemple. Si vous constatez qu'il y a une consommation de stupéfiants qui augmente, vous avez deux solutions. Soit vous libéralisez la consommation de stupéfiants, soit vous renforcez la répression. Mais dans les deux cas, c'est un choix politique. Aucun des deux ne s'impose. Et ça, c'est donc pas au juge de décider. C'est au législateur de le faire. Mais pour revenir à la Convention européenne des droits de l'homme, je crois qu'il ne faut surtout pas sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, mais qu'il faut savoir lui résister. Et des États l'ont fait. Le problème, ce sont des rapports finalement politiques. Quand la Cour européenne des droits de l'homme, avec une jurisprudence très embarrassée, admet les crucifix dans les salles de classe en Italie, ou lorsque elle admet l'interdiction de la burqa en France, c'est parce qu'on est dans un rapport de force et qu'elle sait que dans un cas ou dans l'autre, les États ne supporteront pas sa tutelle. Donc je crois qu'il faut savoir lui résister. Quant au Conseil constitutionnel, n'oublions jamais que le constituant a toujours le dernier mot. Et qu'il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Si le Conseil constitutionnel prend une décision qui ne plaît pas, le constituant change la Constitution et le Conseil constitutionnel s'incline, et c'est déjà arrivé. Ça relève de la nature des choses. Je ne crois pas du tout là qu'il faille changer quoi que ce soit.
Donc le pouvoir politique peut encore avoir évidemment...
Le problème, c'est que le pouvoir politique doit toujours avoir le dernier mot. Sinon, on sort du système démocratique.
Est-ce que c'est pas ça, finalement, le principal problème, François Saint-Pierre ? C'est-à-dire que, plutôt que d'être dans une dialectique ou dans un dialogue, comme vous le dites, on est dans des institutions judiciaires qui surplombent aujourd'hui le politique et qui s'imposent à lui sans admettre qu'il puisse y avoir une contestation.
Je ne pense pas, parce qu'en fait, c'est un jeu de correspondance permanent entre, d'une part, le Parlement, qui vote la loi, puis ensuite les juges qui doivent l'appliquer. Les juges sont des légalistes. Ils ont été éduqués dans le culte de la loi. Mais il se trouve que les tribunaux, ce sont les ateliers de la loi. Les parlementaires votent des lois avec des termes assez généraux, parfois inappropriés par rapport aux réalités sociales. Et ce sont donc les juges qui interprètent les lois pour les appliquer aux réalités sociales. On ne peut plus dire, comme autrefois, qu'un juge, c'est un mécano. Ça n'est plus la bouche de la loi. Un juge, c'est un sociologue. Il doit appliquer la loi en fonction des intérêts de la société qui se contrebalancent.
Qui définit les intérêts de la société ?
Ce sont les juges et les plaideurs qui, au terme d'un procès équitable, peuvent exercer des recours et c'est ainsi que se crée la jurisprudence. Et
oui, parce que ça va quand même au-delà de l'interprétation, ce que vous dites. Alors moi, j'avais noté plein de phrases dans vos ouvrages respectifs, mais on renverra nos auditrices et nos auditeurs à leur lecture. Mais par exemple, François Saint-Pierre, vous évoquez dans votre livre alors le cas que vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure du délit de solidarité ou encore les
les arrêtés, par exemple, anti-Burkini.
Oui.
Dites, non seulement les juges ne sont plus les bouches de la loi, mais tous, des tribunaux de première instance jusqu'à la Cour de cassation, sont capables d'écarter les effets délétères d'une loi contraire aux libertés fondamentales. Mais là, il y a de la subjectivité qui rentre en ligne de compte. C'est pas juste une, comment dire, une interprétation strictement juridique.
Je vous réponds que les juges n'émettent pas leurs opinions personnelles. Faire du droit, comme l'on dit, c'est se référer à la loi, c'est se référer aux décisions de jurisprudence précédentes, et c'est ainsi ce que les anglo-saxons appellent émettre une opinion juridique. Ça n'est pas la sienne propre. Il faut se départir de ses préconçus, de sa partialité et même de sa partisanerie. Mais je suis bien d'accord pour dire que c'est une question culturelle. Nous avons en France une excellente école de la magistrature qui enseigne cela. Mais on voit bien que certains magistrats, peut-être de générations passées, ça n'est pas si évident. Je vais prendre un exemple qui va faire sourire Bertrand Mathieu, je pense. Vous savez que récemment, et là j'appuie là où ça fait mal pour les juges, a eu lieu le procès du mur des cons. Le syndicat de la magistrature de gauche avait affiché dans ses locaux des photos, c'était ses ennemis. Ce qui est manifestement contraire à l'obligation d'impartialité des juges. Et d'ailleurs, la présidente de ce syndicat a été récemment condamnée pour injure contre des personnes parce que, et le juge a dit, le tribunal a dit, c'est inadmissible, ça ne devait pas se faire. Eh bien, écoutez-moi bien. La présidente de ce syndicat, l'ex-présidente, devant les juges, a dit pour se justifier, écoutez, il faut bien nous comprendre, nous, on mène un combat politique. J'ai lu ça dans Le Monde sous la plume de Pascal Robert-Diard. Moi, je suis resté les bras ballants, parce que c'est justement tout au contraire de ce que j'attends d'un juge, qu'il se départisse du discours juridique pour émettre un discours, du discours politique pour émettre un discours juridique. Nous sommes en devenir. C'est une évolution qui ira croissante ou décroissante, ça dépendra beaucoup, du sort des élections politiques. Et en ce sens, nous sommes bien en démocratie, puisque ce sont les électeurs qui choisiront le système de société qu'ils souhaitent.
Est-ce que c'est ce que vous pouvez justement reprocher aux juges de tous les ordres juridiques qu'ils soient, Bertrand Mathieu, c'est-à-dire que derrière cette neutralité se cache aussi des agendas politiques qui sont d'autant plus problématiques que justement ce sont des gens qui ont un pouvoir qui n'est pas un pouvoir peut-être suffisamment contrôlé.
Oui. Alors, en effet, je voudrais répondre à ces deux aspects-là et un autre aspect qu'a développé François Saint-Pierre. C'est le problème, on parle beaucoup, et vous avez raison, de l'indépendance des juges, en réalité, et l'indépendance des juges, quand vous parlez aux juges, que j'ai beaucoup fréquenté, ils parlent de l'indépendance. Et quand ils pensent indépendance, ils pensent indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Or, ils sont fort peu dépendants du pouvoir politique. Moi, ce que je dis, c'est que l'indépendance est une condition de l'impartialité, mais l'impartialité ne se limite pas à l'indépendance politique. Et le problème, c'est qu'il faut, en effet, la légitimité du juge, c'est dans son impartialité. Et j'admets en effet que le pouvoir du juge soit un correcteur de ce que la démocratie peut avoir d'excessif. Mais pour revenir au problème plus fondamental, ce que nous propose François Saint-Pierre, c'est un gouvernement modéré. Mais ce n'est pas une démocratie. C'est probablement une forme moderne de gouvernement. Le problème, c'est qu'on passe d'un système à l'autre. Moi, je ne dis pas que ce système est plus mauvais ou meilleur que la démocratie. J'essaye de ne pas mettre, dans les termes que j'emploie, de subjectivité. Je crois que c'est un système différent. Et le problème, c'est que là où on masque les choses, et on les masque vis-à-vis du peuple ou de l'opinion, c'est d'appeler démocratie à un autre système de gouvernement qui n'est peut-être pas plus mauvais, mais qui n'est pas la démocratie. Et je voudrais quand même qu'on s'interroge sur un point. Pourquoi l'une des revendications premières des Gilets jaunes, celle qui a été probablement la plus intellectualisée, a été celle du référendum d'initiative citoyenne? Moi, je ne suis pas un fanatique de ce référendum, pour un certain nombre de raisons. Mais je crois que cette revendication, elle est parfaitement légitime, parce qu'elle traduit très profondément le sentiment d'un certain nombre de gens, pas nous, qui participons à des débats, pas nous, qui étons dans des cercles qui ont un certain pouvoir. Nous, on est là, on fonctionne, ça, c'est bien. On a un lien avec le pouvoir. Mais de gens, moi je le dis souvent, moi qui ai été 20 ans conseiller municipal dans mon petit village de Bourgogne, je peux vous dire que le sentiment, non seulement de déclassement, mais le sentiment de toutes ces gens de ne pas avoir d'incidence, d'influence sur le pouvoir de décision est quelque chose de très fort qui explique ce mouvement. Et c'est pas quand vous leur dites « oui, mais vous avez la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel qui vous protège » que ça leur donne ce sentiment de vivre dans un système de démocratie. Il faut s'interroger aussi, je finis d'un mot, il faut s'interroger aussi sur les études qui ont été faites et qui montrent deux choses. Le sentiment que les citoyens n'ont plus confiance dans la démocratie est finalement aussi une demande de pouvoir autoritaire. On ne demande pas plus de juges. Peut-être que vous voulez plus de juges. Ce n'est pas là où est la demande.
Alors justement, comment est-ce que vous expliquez, vous, François Saint-Pierre, que malgré ce mouvement que vous considérez comme vertueux, c'est-à-dire d'un pouvoir qui est davantage dans les mains des juges aujourd'hui, peut-être un rééquilibrage. Alors est-ce que c'est un rééquilibrage équilibré ou en tout cas quelque chose qui se fait plutôt au profit des juges qui sont là aussi pour défendre les droits fondamentaux, les libertés individuelles? Comment est-ce que malgré ce mouvement-là, les gens, alors les gens, c'est un peu essentialisant, mais bon, en tout cas, une partie de l'opinion publique considère que nous ne vivons pas en démocratie.
Alors, ce qui m'a frappé dans le livre de Bertrand Mathieu, c'est le nombre de fois où il emploie le mot crise, hein, la crise. Et s'il y a bien une crise, c'est celle de la démocratie représentative. J'adhère totalement à votre propos. Les gens considèrent n'être plus correctement représentés. Ils ont du mal à discuter avec leurs élus. Et ce faisant, je ne fais pas le procès individuellement des maires ou des députés qui, pour le grand nombre, s'investissent de manière très importante dans leurs fonctions. Mais manifestement, il y a un problème de relation, de discussion entre eux. Eh bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles les juges ont développé ce pouvoir que l'on appelle prétorien, c'est-à-dire le pouvoir du juge de dire plus que ce que la loi dit, n'est-ce pas ? C'est pour répondre à une autre attente.
Alors, est-ce que c'est ce que vous qualifiez dans votre livre de démocratie judiciaire ?
Je dis que c'est un terme émergent, que nous n'avons jamais employé, parce que notre tradition jacobine veut qu'au contraire, la justice soit un pouvoir régalien. Vous savez, dans les tribunaux, elle est représentée sous forme d'une statue qui a les yeux bandés, un glaive dans la main, une balance dans l'autre. Personnellement, ça m'inquiète, ça m'intimide. Je pense que la justice peut avoir une autre figure qu'intimidante. C'est Joseph de Maistre qui disait « Le personnage central d'une société, c'est le bourreau. Il effraie tout le monde respecte la loi. » Charmant comme programme. Je dis que le sens civique fait que l'on doit aimer la loi sans contrainte. Voilà. Eh bien, c'est ce que peut permettre une justice démocratique qui se fonde vraiment sur la notion de procès équitable. Et à qui doit-on cette notion de procès équitable ? À la Cour européenne des droits de l'homme.
La notion de démocratie judiciaire, Bertrand Mathieu.
Non, mais moi, je m'inscris en faux, non pas contre l'idée elle-même, mais contre le terme. On emploie la démocratie à tout vent, la démocratie environnementale, la démocratie judiciaire. En fait, le problème, et qui nous masque la réalité du débat, c'est que lorsque l'on dit démocratique, ça veut dire que c'est bien. Le problème n'est pas là. Il peut y avoir des choses démocratiques qui soient mal et des choses démocratiques qui soient bien si on prend les jugements de valeur. Moi, je suis... Si on reprend ce mot « crise », oui, bien sûr. Alors, on peut dire qu'une société, elle vit toujours en crise. Mais il y a des crises qui conduisent à des ruptures. Et je crois que l'on est aujourd'hui dans une crise qui préfigure une rupture. Et il convient quand même de s'interroger. On ne peut pas dire finalement « continuons ». Comme les choses vont, allons encore plus loin dans le transfert de pouvoir aux juges et finalement les choses iront bien. Non, il y a une crise. Il y a une crise. Il faut un pouvoir des juges, bien évidemment, mais il y a aujourd'hui une crise entre le politique et le juge. Et quand l'attelage, qui est l'attelage du pouvoir, tire dans des directions différentes, il y a véritablement un problème. Et je crois que mon analyse, elle n'a pas pour but, contrairement à ce qu'on pourrait laisser croire, de dire que finalement c'était mieux avant et qu'il faut donner tout le pouvoir aux politiques, elle est de dire, prenons conscience de cette crise. Est-ce qu'on veut revenir dans une forme de démocratie traditionnelle ? Est-ce qu'on veut d'autres formes de pouvoir ? On peut en discuter, mais ne masquons pas le problème.
Est-ce que, et ce sera juste la conclusion dans quelques secondes, François Saint-Pierre, est-ce qu'il faudrait peut-être faire une pause justement dans ces transferts de pouvoir aujourd'hui ? C'est essayer aussi peut-être d'évaluer ce que ça produit avant que d'envisager d'aller soit plus loin dans une direction, soit dans une autre.
J'ai écrit ce petit livre pour conjurer ce scepticisme. Moi, je crois dans l'histoire et elle ne s'arrêtera pas.
Eh ben, elle s'arrête en tout cas ce soir pour nous trois, puisque c'est la fin de cette discussion. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Donc, merci François Saint-Pierre, Le droit contre les démons de la politique, ça vient tout juste de sortir aux éditions Odile Jacob. Bertrand Mathieu, Le droit contre la démocratie, est-ce qu'on a entendu le point d'interrogation? Oui, aux éditions LGDJ, c'était en 2017. Deux ouvrages absolument passionnants. On n'est pas obligé d'avoir fait des études de droit pour s'y intéresser. Voilà, vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pourrez également télécharger l'émission, nous écrire et voir des extraits vidéo d'ici quelques heures. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Marchand, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulster. Émission réalisée par Peyret Legras, avec à la prise de son Anthony Thomasson. Dans quelques toutes petites minutes, ce sera la dispute avec vous, Arnaud Laporte.
Absolument, je suis en train de discuter avec Jean-Frédéric de l'autre côté de la vitre par signe interposé.
Vous disiez quoi?
On va bien ranger les casques, vous savez, pour éviter les larcènes, des choses comme ça.
D'accord.
Vous pouvez faire le ménage avant de partir,
de la radio quand même,
Hervé Gardette.
Oui, ok, ça marche.
Bon, on va parler d'art plastique et de quoi s'agira-t-il demain? Est-ce que vous avez la question du Grain à Moudre?
Les complotistes sont-ils vraiment si dangereux?
C'est présenté par vous. Moi, je pense qu'il y a peut-être un complot.
Comme par hasard.
On sera à l'écoute, évidemment. Pour l'instant, 19h, vous écoutez France Culture, les titres de journal, avec de l'actualité, plus exactement, avec Maxime Fayolle.